RFI, 9h30, à Paris, 7h30 en temps universel. Et le journal avec vous, Vincent Dublange, à la une des réactions inquiètes, médusées ou courroucées.
Oui, dans Le Monde, après l'annonce du nouveau travel ban, cette interdiction de séjour aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays dans le monde, dont 7 africains, interdiction censée entrer en vigueur ce lundi. Le Tchad dit qu'il va appliquer la réciprocité. Le Congo-Brazzaville, de son côté, veut croire à un simple malentendu. L'agence France Presse au Sénégal évoque des squelettes humains découverts avec des balles dans le corps à Tiaroy. Dans les fouilles de l'ancien camp, pas de confirmation officielle, on va faire le point. On parlera aussi du Niger et de la réponse du CICR au propos d'Abdourahmane Tiani, qui les accuse de collusion avec les groupes armés. Une tabaski sans sacrifice cette année au Maroc, reportage dans cette édition. Et puis portrait d'Edgar Lungu, l'ex-président de Zambie, décédé hier à 68 ans. L'interdiction d'entrée annoncée par le président Trump qui provoque surprise et inquiétude, notamment sur le continent africain. Le chef de l'État américain ferme donc son territoire aux ressortissants de 12 pays dans le monde, dont 7 pays africains à partir de ce lundi, le 9 juin. Pour rappel, les pays en Afrique sont le Tchad, la République du Congo, Congo-Brazza donc, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Cette décision, Alexandra Branjon, provoque de nombreuses réactions donc dans les pays concernés.
Parmi les premiers à réagir, l'Union africaine qui s'est dite préoccupée par le possible impact de telles mesures, notamment sur les relations diplomatiques avec les pays concernés. L'UA, qui appelle l'administration américaine, a engagé un dialogue constructif avec les pays en question. Réaction courroucée au Tchad, où l'on se dit surpris par le motif de terrorisme mis en avant par l'administration américaine. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté, a écrit le président Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook. Le chef de l'État tchadien qui a annoncé suspendre l'octroi de visas aux citoyens des États-Unis. Côté Congo-Brazzaville, on se dit également surpris. Nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, a réagi le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala lors d'une conférence de presse. Le Congo n'est pas un pays terroriste, a-t-il ajouté. Quant aux autres pays africains concernés par cette interdiction, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan, pas de réaction pour l'instant.
Et les ressortissants de 7 autres pays sont également visés, cette fois par des restrictions dans la délivrance des visas d'affaires, des visas d'étudiants, visas de travail. Pour l'Afrique, il s'agit du Burundi, de la Sierra Leone et du Togo. Le Togo, où une vidéo a été publiée hier sur le compte TikTok du rappeur Amron. C'est la première fois qu'il réapparaît depuis qu'il a été emmené le 26 mai par des gendarmes. Dans cette publication, dans cette vidéo, l'artiste militant critique du pouvoir présente ses excuses au président du conseil Faure Gnassingbé. D'après des proches d'Amron, il aurait été conduit dans un hôpital psychiatrique. On ignore toujours si une procédure a été engagée contre lui. Les attaques qui continuent au Sahel, notamment au Mali, mais pas que, elles se multiplient en différents endroits ces dernières semaines. Nouvelle attaque djihadiste dans la région de Sikasso, dans le sud du Mali, près du Faso, hier. L'armée dit avoir envoyé des renforts. Et au Bénin, on apprend l'attaque mercredi d'un commissariat dans le nord du pays, en bordure du parc de la Pendjari, frontalier du Togo, du Burkina et du Niger. 2 policiers et 3 soldats béninois sont morts. Le Bénin qui nomme un nouveau commandant du théâtre national des opérations, du théâtre des opérations anti-jihadistes, le colonel André Dokoui Fofo. C'est la première réaction officielle du comité international de la Croix-Rouge depuis qu'il a dû quitter le Niger sur demande des autorités de Niamey. La décision avait été communiquée au CICR par note verbale du ministère des Affaires étrangères fin janvier. L'ONG française Acted, elle aussi, avait été sommée de quitter le pays quelques semaines plus tôt. Samedi dernier, dans son interview sur la télévision nationale, le général Tiani est revenu sur le sujet. Il a accusé le CICR de collusion avec les groupes armés. CICR qui a donc mis en ligne un texte de réponse, Magali Lagrange.
Le CICR le confirme, l'organisation a bien dû fermer ses bureaux au Niger. Son personnel expatrié a quitté le pays sur demande de Niamey, une décision que déplore l'organisation après 35 ans d'activité dans le pays. Les autorités nigériennes, le général Cardinal Tchiani à leur tête, accuse le comité international de la Croix-Rouge de collusion avec des groupes armés. Réponse du CICR, au Niger comme partout dans le monde, il dialogue avec toutes les parties à un conflit armé, par oral ou par écrit, pour pouvoir mettre en œuvre son action strictement humanitaire, des parties à qui ne sont jamais fournies de soutien financier, logistique ou de toute autre nature. Dans le texte publié sur son site internet, le CICR rappelle son action de terrain. L'an dernier, une aide humanitaire a été fournie à près de 2 millions de personnes au Niger, dans les régions de Diffa, Tawa, Tillaberi et Agadez, pour répondre à la crise humanitaire à laquelle le pays fait face. L'organisation reste ouverte à la discussion, disponible pour un dialogue constructif avec les autorités nigériennes, en vue de reprendre à tout moment ses activités de protection et d'assistance.
Magali Lagrange.
Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, première potentielle découverte sur le site de Tiaroy, en banlieue de Dakar. Des archéologues auraient, selon l'agence France Presse, retrouvé des squelettes humains avec des balles dans le corps, dans le cimetière militaire. Des fouilles y sont menées depuis le début du mois de mai pour déterminer comment et combien de tirailleurs africains ont été tués par l'armée coloniale française le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient leur salaire. Léa Lisa Vesteroff nous appelle de Dakar.
Voilà près d'un mois qu'une équipe d'archéologues sénégalais sonde le cimetière militaire de Tiaroy à la recherche de squelettes ou de possibles fosses communes de tirailleurs africains. Car parmi les nombreuses zones d'ombre qui entourent ce massacre, il y a ces questions. Où les tirailleurs tués le 1er décembre 1944 ont-ils été enterrés? Combien étaient-ils? Selon une source citée par l'AFP, des squelettes avec des balles dans le corps, au niveau de la poitrine pour certains, ont été découverts par les archéologues au niveau du cimetière militaire. Une source selon laquelle une petite section du cimetière a été fouillée, permettant d'exhumer des balles de calibres différents qui demandent à être expertisées désormais. Une information impossible à confirmer de source officielle, tant le blackout est quasi complet depuis le début de ces fouilles en mai. Plusieurs sources confirment que des sondages archéologiques ont été effectués au niveau du cimetière militaire de Tiaroy, mais silence sur ce qui a été trouvé. Trop tôt pour en parler pour certains, d'autres évoquent un rapport en cours de rédaction et qui serait présenté en priorité aux autorités sénégalaises avant d'être rendu public, sans doute après la Tabaski. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Et des cas de choléra dans la capitale économique ivoirienne, dans la commune de Port-Bouët, 45 cas détectés, 7 personnes décédées, mais pas de nouvelles contaminations, nous disent les autorités, depuis le 1er juin à Vridi, Ako Braké, village coincé entre l'océan et la lagune Ébriée. Le Ghana connaît, lui, sa plus forte épidémie de Mpox depuis 2022. 45 personnes infectées par ce virus depuis un mois, c'est ce que disent les autorités sanitaires. Il n'y a aucun mort, disent-elles aussi. Elles disent par ailleurs avoir déployé les moyens pour lutter contre ce que l'OMS décrète comme une urgence de santé publique de portée internationale. Victor Cariou.
Identification, isolement et traitement des malades, traçage des cas contacts, vaccination des personnels de santé exposés et campagne massive de sensibilisation. Voici en partie la feuille de route mise en place par le service de santé du Ghana pour contrer cette nouvelle épidémie de Mpox. Sur plus de 300 cas suspectés dans l'ensemble du pays, 45 ont été confirmés au 31 mai, date du dernier relevé. Interrogé sur l'évolution probable de l'épidémie, le gouvernement n'a souhaité avancer aucun chiffre pour l'instant, mais a confirmé que le nombre de cas risque d'augmenter ces prochains jours, voire semaines. De souche Clade 2, le virus Mpox en circulation au Ghana est, selon les autorités sanitaires, moins dangereux que le variant qui sévit en Afrique centrale. Le gouvernement invite néanmoins les Ghanéens à consulter en urgence en cas de symptômes et à éviter le plus possible les contacts et les transports s'il y a un doute, le virus se transmettant surtout par contact cutané. En 2022, le virus avait contaminé 120 personnes dans le pays, provoquant la mort de 4 d'entre elles. Victor Cariou, Accra, RFI.
Le Maroc célèbre aujourd'hui la Tabaski, Aïd el-Adha, sur place on l'appelle surtout Aïd el-Kébir, fête musulmane qui réunit chaque année les familles autour du sacrifice du mouton. Mais pour cette édition, le roi Mohamed VI a appelé les Marocains à renoncer à l'abattage rituel pour préserver le cheptel affaibli par les années de sécheresse. Reportage à Casablanca, Mathias Reynal.
Au marché central, les boucheries tournent au ralenti.
Il y a des clients qui ont acheté le mouton vivant et d'autres qui l'ont égorgé avant l'Aïd. C'est n'importe quoi. Le sacrifice est annulé.
Ces derniers jours, la presse marocaine s'est fait l'écho de ces tentatives de contournement des directives royales. Saisie de moutons, camions remplis de bêtes interceptés à la sortie des grandes villes, marché aux bestiaux fermé par les autorités.
Ces gens ont fait augmenter les prix de la viande de mouton. La fête n'est pas annulée. On va aller à la prière, voir la famille, les amis, se rassembler. blé. Ce n'est pas parce qu'on n'égorge pas qu'il n'y a pas de fête.
Quelques mètres plus loin, Mohamed, serveur dans un restaurant, est du même avis. Cette année, il va célébrer l'Aïd, mais sans mouton.
On va acheter des morceaux de viande de mouton ou de bœuf, on passera la fête ensemble et chacun rentrera chez soi.
Il défend l'appel lancé par le roi Mohamed VI.
Le cheptel est maigre et les prix sont élevés. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter et d'autres non. Donc il a bien fait. En faisant ça, on sera sur un pied d'égalité.
Pour rappel, le cheptel marocain a perdu plus d'un tiers de ses effectifs depuis 2016, conséquence notamment de la sécheresse et de la hausse des prix des aliments pour bétail. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Et puis la Zambie en deuil pour terminer ce journal. On a appris la mort hier de l'ancien président zambien Edgar Lungu. Il fut chef de l'État entre 2014 et 2021 dans le pays d'Afrique australe. Il avait 68 ans, Claire Bargelès.
Edgar Lungu s'est éteint en Afrique du Sud dans une clinique de Pretoria où il était sous surveillance médicale. On ignore les causes exactes de son décès, mais il souffrait depuis de longues années d'une maladie rare de l'œsophage. Cet ancien avocat de formation était devenu le sixième président élu de la Zambie de 2015 à 2021 sous la bannière du parti du Front Patriotique. Il laisse derrière lui un bilan très mitigé, ayant à la fois développé les infrastructures et en particulier dans le secteur autoroutier, mais contractant pour cela des emprunts importants, notamment auprès de la Chine, ce qui a conduit à un défaut de paiement sur la dette en 2020. La fin de sa présidence a également été marquée par des accusations de corruption et une réduction des libertés d'expression. Lors des élections de 2021, il a reconnu sa défaite et faciliter la transition lorsque les votants lui ont largement préféré l'opposant Hakainde Hichilema. Edgar Lungu avait par la suite tenté un retour en politique avec en ligne de mire les élections de 2026, mais la Cour constitutionnelle avait récemment tranché qu'il n'était plus éligible. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Fin de ce journal, mais suite d'RFI Matin.
Merci Vincent Dublanche, très bonne journée à vous. 7h42 en temps universel.